Bille en tête, avec votre quotidien 24 heures et son site internet 24h.ch. Bille en tête. Philippe Ligron et Duja.
On parle du Louvre, hein?
Ouais.
Ah ouais, ouais. Quel est le...
C'est un centre de vacances, de centre de séminaire.
Mais il y a un problème particulier ou c'est l'opinion des gens que vous cherchez chez
Louvre? Non, on a juste rencontré donc, le cuisinier Paul Steiner et le patron Philippe Saltarski.
D'accord.
Et on discute avec eux de savoir ce que c'est le Louvrin, ce qu'on peut y faire, comment ça se déroule.
Bah écoutez, je vous remercie beaucoup, mais je ne connais pas le Louvrin pour être honnête avec vous. Donc voilà.
Dans Bille en tête, on saura ce que c'est. C'est fantastique, c'est Bille en tête au Louvrin avec Philippe qui consulte ses petites notes car il n'est pas forcément sûr de se souvenir de tous les noms. Bonjour Philippe.
Salut Duja, bah, évidemment je me rappelle de tous les noms. Nous sommes toujours en compagnie de Paul Steiner et de Philippe Saltarski.
Parfait.
T'as vu ? Et puis avec Duja et puis moi-même au Louvrin où nous continuons cette découverte, la découverte de cet établissement. Pour le moins étrange quand même, rappelons-le, puisque c'est un établissement qui est perdu au milieu de nulle part. C'est peut-être ça justement l'intérêt et qui est essentiellement axé sur les événements, les séminaires, les groupes, une sorte de repli sur soi-même, positif j'entends, où on peut se ressourcer et on peut redécouvrir un peu tout à chacun.
C'est bien cette fin. Resituons.
Oui, alors pour le situer, moi je dirais pas au milieu de nulle part, mais je dirais au milieu de tout, juste au milieu de Chaudefonds et de Neuchâtel.
Oui, non, situés. On est quand même dans la nature.
Mais on est dans la nature.
C'est un mec qui vient de la Broye qui nous dit ça.
Exactement.
Resituons l'endroit, comment est-ce qu'on y arrive, par où, comment?
Alors, c'est très simple, quand on arrive depuis l'autoroute de Neuchâtel, vous avez une jolie pancarte qui vous indique le Louvrin. Vous traversez les Genevets-sur-Cofrane, vous montez. Quand vous avez l'impression d'être perdu, vous arrivez au Louvrin.
D'accord. Et le nom?
Alors, le nom, en fait, vient de la ferme qui se situe juste en dessous, qui s'appelle le Louvrin aussi.
Ouais, rien à voir avec le Louvre. Philippe a préparé des tonnes d'informations sur le Louvre. Il n'y a aucun rapport, Philippe.
Il n'y a pas des statues de Ramsès II et... Non?
Non.
Rien?
Non. Bon, tu t'es bien ramassé, mais... Voilà. Le pain, on parlait hier du pain, Philippe.
Le pain, d'ailleurs inventé par les Égyptiens, rappelons-le.
Le pain du vin du Louvrin, hein, c'est
du
connu.
Louvrin.
D'accord. Alors ce pain, qu'a-t-il de particulier, Paul?
La particularité de mon pain, c'est que j'ai créé une bactérie avec du miel fermenté il y a environ 5 ans. Je l'ai appelé Marcel, sauf erreur, ça s'appelle le levain chef. Et puis c'est un processus qui dure 2 jours. Le jour d'avant, je fais ça, je fais ma première masse avec uniquement mon levain chef. Mm-hmm. Et puis le lendemain, je travaille encore avec un petit peu de levure de boulanger pour quand même donner un peu plus d'aéré au pain.
On peut nous expliquer ce qui se passe, messieurs, pour les profanes de la boulangerie.
Donc le pain que tu vas nous faire, c'est celui que tu as mis à lever hier, en fait, dont tu parlais hier.
Oui.
Alors, ce pain, comment tu procèdes?
Alors en premier, je mets ma farine, je mets mon eau, je mets mon sel, et puis je mets le levain chef dedans. Je laisse fermenter toute une nuit. Le lendemain, je rajoute de la farine.
Alors, laisser fermenter toute une nuit, il y a une température particulière.
20 degrés, température de la cuisine.
Température ambiante.
Ouais. Température ambiante, et puis si je suis absent 2 jours, je le laisse au frigo pendant 2 jours. Puis ça, c'est ce qui lui confère une légère amertume.
Et alors ensuite?
Et après, le lendemain, je rajoute de la farine, de l'eau, de la levure de boulanger, quand même pour donner un petit peu aéré. Et puis je fais la première pousse, après je fais mes pâtons. Puis je fais différentes formes, des pains entiers, des miches, des baguettes, au sésame, au cumin, sel marin, graines de pavot, etc.
Ouais, je crois qu'on va goûter.
Oui, bien sûr, avec plaisir.
Philippe, t'as envie?
C'est clair.
Ces miches te font envie?
Moi, les miches me font toujours envie, hein. Surtout quand elles ont des petites graines de sésame dessus. Je trouve ça très bon.
J'adore le sésame. Là, il y a pavot, sel marin, cumin.
Allez, j'y vais. Ah oui, il est encore chaud, hein.
Oui.
Alors, il a une légère amertume, hein, quand même.
C'est voulu?
Ouais, c'est voulu. C'est la fermentation d'un jour entier du levain chef qui donne cette particularité qui est très appréciée des gens. Je produis un peu pour Goût et Région. Et puis, j'en fais des centaines, en fait.
Goût et Région?
Goût et Région.
Qu'est-ce donc?
C'est l'Hôtel de l'Aigle à travers, avec Mathias von Wies qui est à la tête de Goût et Région, les mines d'asphalt, etc. Et puis, je fais beaucoup de traiteurs pour eux. Plusieurs centaines, 400, 300, on fait beaucoup par l'Arc, à Neuchâtel aussi, là, c'est... Ouais.
Alors, tu parlais de traiteurs, effectivement, vous n'avez pas des mariages tous les week-ends, vous n'avez pas des groupes de musique, des chorales et ce genre de choses. Vous faites des traiteurs à l'extérieur aussi?
Oui.
Alors, ça veut dire quoi, traiteur? Vous allez chez les gens, vous... parce que j'ai vu quand même que vous avez des bacs isothermiques, donc ça veut dire que vous avez la possibilité de vous déplacer chez les gens, faire des banquets extérieurs. Il y a des banquets un peu farfelus qu'on peut vous demander ici au milieu de la forêt ou...
Oui, on peut organiser une torée. On a un chalet en haut dans la forêt qui appartient à la commune.
Une torée pour les non-neuchâtelois, les non-jurassiens?
Alors, une torée, c'est une des spécialités du Louvrain. C'est un saucisson neuchâtelois qui est emballé dans une feuille de chou. Dans l'express, après, il faut mettre une feuille de journal. Et puis après, on met dans l'aluminium. Et puis les paysans, à l'époque, ils mettaient ça dans la braise. Ils enfouissaient ça dans la braise, etc. Mais moi, je le cuis en papillote dessus la braise. Je trouve que ce n'est pas tellement écologique d'utiliser 5-6 sacs de charbon. Ça donne le même effet en cuisant en papillote qu'à l'intérieur de la braise, en fait.
Bonjour, c'est Bill en tête sur la première. Pourriez-vous me dire ce qu'est une torée, s'il vous plaît?
C'est pas ce qu'on fait sur le feu du 1er août après, où on fait cuire les saucissons sur les braises du 1er août.
Ouais, c'est pas mal ça. On peut en faire aussi indépendamment du 1er août. Bah oui, c'est une bonne réponse quand même. Le saucisson de Châtelois, on le connaît moins. On connaît le saucisson vaudois, le saucisson paillernois, Philippe.
On connaît bien.
C'est quoi la différence, je crois? Il y a aussi des saucissons fribourgeois. Se ressemblent tous ces saucissons.
Vous pouvez bien me poser la question quand je vais juste prendre une bouchée de pain.
Ah, mais ça, c'est pas mon problème, Philippe, on est en émission.
Alors, bah oui, mais justement, je suis au travail, je goûte. Mais pour répondre à ta question, je pense que le principe est le même. C'est-à-dire que toutes ces charcuteries sont fabriquées selon le même principe. On met de la viande, du genre du coup, des morceaux qui sont pas forcément du filet. On met des morceaux plutôt longue cuisson. Avec du gras, on peut rajouter après toutes sortes d'épices. Après, ce qui fait que là, on a du saucisson fribourgeois, du saucisson vaudois, du saucisson paillernois, etc. C'est simplement la manière de faire. C'est-à-dire qu'il y a une recette qui va être plus spécifique.
On a l'impression que ça se ressemble, c'est très similaire, il n'y a pas vraiment de grande différence.
Il peut y avoir des différences au niveau de la taille déjà. Tu peux avoir des saucissons qui sont fabriqués dans des boyaux d'agneau, tu peux en avoir d'autres qui sont fabriqués dans des boyaux de bœuf, donc c'est déjà beaucoup plus gros, la forme est différente. Il y a les épices, il y a les herbes aussi, on peut mettre des herbes, il y a la quantité de sel. La viande, oui, elle joue... Quand même, il n'y a pas une grande différence. Ça dépend de ce qu'on y met dedans. Mais le goût de la viande, si c'est la même viande, ça ne doit pas avoir une différence fondamentale. Mais voilà, après, on fait avec les produits du coin. Et puis, je pense que ces recettes d'année en année, ces recettes de saucissons, c'est pas des recettes qui se sont faites il y a 10 ans, juste parce que maintenant on va sur les produits du terroir. C'est des produits qui existent depuis très très longtemps, qui remontent à des centaines d'années, hein. Puisqu'on retrouve même des traces de saucissons dès la fin du 19e siècle.
Ah oui, sur les vieux grimoires, à l'instar de ceux de Maître Chicard, rédigés en 1420.
Voilà, par exemple. Mais surtout sur les bulletins de commande. Enfin bref, pour revenir à nos moutons, ça, c'est quand même des recettes qui ont perduré, qui ont traversé les siècles. Et ces recettes se sont essentiellement affinées selon la petite touche du coin, etc.
On verra ce qu'en pense Paul. Paul, ce saucisson de Châtelois, qu'est-ce qu'il a de particulier?
Alors moi ici dans mes essais, parce que je fais pas mal de... Peut-être que je fais pas de la recherche, mais je suis très passionné par ma profession. J'ai eu fait du saucisson du Châtelois, moi-même, avec ma machine, et puis un poussoir, etc. Mon avis, c'est qu'il y a un cahier des charges qui est strict par rapport à un AOC pour les saucissons. Dans un AOC, tu dois avoir tant de porc, tant de joues, tant de lard, tant de nitrate, etc. Et puis après, comme il a dit Philippe, après, tu as le bout de face, c'est plus gros, peut-être la grille est plus grosse pour le gras, peut-être tu mets plus de bajou dans l'un ou dans l'autre, plus de lard gras dans l'un ou dans l'autre. Mais comme il dit, il y a les salamis, il y a les salamettis,
Il y a des salamis très différents, et les saucissons secs extrêmement différents. Il me semble qu'il y a plus de différence dans les saucisses sèches entre régions que dans ces fameux saucissons, si je puis me permettre.
Moi, je suis pas boucher, moi, je suis autodidacte dans ce que j'ai fait. Puis quand j'ai fait les saucissons, j'ai fait un peu pour m'amuser. Ouais. Voilà.
Tu sais, on parle de saucissons, on pourrait parler de jambon.
Il continue de bouffer, lui.
Bah, parce qu'il est très bon, son pain. Le saucisson, c'est comme le fromage, c'est comme le vin. C'est-à-dire que, on parle de saucisson, on parle de pain, mais il faut savoir qu'il y a aussi un élément fondamental dans notre alimentation, qui est le fromage. Le fromage, tous les fromages quasiment au monde sont faits selon une recette, la même recette. Et simplement, des petites nuances font que nous arrivons à tant de... Il y a des centaines, des milliers de fromages différents à travers le monde.
J'avais compris ça quand on était allé en Gruyère, on nous avait dit, oui, bah voilà, le Gruyère et le Vacherin, c'est le même lait. C'est vrai que c'est évident, mais quelque part, oui, tu te dis, mais c'est tellement, différent.
C'est la même recette, c'est simplement des nuances de quelques degrés, etc. Donc et le vin, c'est la même chose, hein. Le vin, c'est la même façon de faire. Simplement, c'est le vignoble, le cépage, le terroir, la terre, la façon aussi, la signature du tâcheron, du vigneron, qui font que ce vin va être différent. Donc avec la charcuterie, c'est exactement la même chose. Il suffit d'une petite différence, d'une petite nuance au niveau des ingrédients, du poivre, du temps aussi, de l'air, rien que l'air, l'humidité. On le voit avec la viande séchée du Valais, où suivant l'humidité, la viande séchée n'aura pas le même goût, parce que si la viande est moins séchée, elle contient plus d'humidité, donc le goût est moins fort. Tout ça, c'est tellement subtil, et c'est ce qui fait qu'on vit dans un monde qui est absolument magique, hein, avec ces éléments de base qui sont le pain, le vin, le fromage et la charcuterie. C'est-à-dire qu'il y a des tout petites subtilités font d'énormes différences, et c'est un monde sans fin, parce que tous les jours on peut réinventer une nouvelle charcuterie, un nouveau fromage, un nouveau vin, parce que c'est c'est que du bonheur.
C'est l'effet papillon, quoi. Il suffit d'une toute petite différence pour que ton saucisson devienne absolument grandiose, ou alors un sombre truc tout pourri.
Mais oui, parce que les gens souvent mangent du fromage, ils disent, ah oui, moi je préfère ci, je préfère ça, etc. Mais on oublie ces choses fondamentales, c'est qu'il y a toute cette histoire, toute cette recherche avant qui fait que, un vin blanc, il est blanc, un rouge, il est rouge, un Bordeaux, un Bourgogne, un Chasselas, un Pinot Noir, tout ça, ça a de la différence. Et c'est pareil avec les fromages, et c'est pareil avec la charcuterie, et c'est pareil avec le pain.
Paul
parlait de son levain, mais ça, c'est la signature de la personne. Après, il parle de son levain, il a même donné un nom, j'entends, puis il n'est pas le seul. Il y a beaucoup de boulangers qui font ça, parce que on dit qu'il y a même des levains qui dateraient du Moyen-Âge, tellement ils sont renouvelés en permanence. Après, il faut voir ce qu'il en reste.
Un peu l'ADN du cuisinier.
J'aime les noirs velours, les cuirs au parfum lourd, les soies arachnéennes, les fourrures païennes, peluche du Véfa et Angora câlin, les lits à baldaquin, les trônes en retin, les fauves bien-aimés pour le sol sacrifié. J'aime la fleur de sel, de l'écume, du gel, de la mer de platine, lorsque le jour décline. Le jasmin en étoile pour les boucles nuptiales. J'aime les foins poudreux, le cannabis en feu. Quant à la cocaïne, c'est pas pour mes narines. J'aime les soies brochées qui s'en vont en soirée, les blanches mousselines aux vapeurs assassines, les capes de vison gris comme l'horizon, de menaçants nuages et de lunes d'orage. Mais les jeans j'aime aussi, moulant queue et poussi. J'aime les maris noirs, on the rocks dans les bars. J'aime les scotch turbés, dont l'ombre est à me baiser. J'adore les champagnes, de la poire en campagne. Je ne dédaigne pas la vodka, la boja, les caipirinha, le gin, la tequila. En revanche, je hais l'odieux café au lait, l'affreuse limonade, les bols de cidre fade, le vil orangina, l'affreux Coca-Cola, le décaféiné et l'horrible maté, l'eau chlorée de la Seine, la bière plébéienne. J'aime les escarpins au nevers de satin que Marie-Antoinette arborait pour ses fêtes, les bottines lacées pour mignonne rassée, les chaussons rouges sang, des petits rats dansant.
Avec nous aujourd'hui, Paul Steiner et Philippe Seltarski au Louvrain pour parler de saucisson, le saucisson neuchâtelois.
Mais je voulais dire aussi, ce qui est important, c'est les conditions dans lesquelles on va manger ce saucisson neuchâtelois. Et quand on a vu le feu avant, par la fenêtre, en train de se préparer, quand on a vu le saucisson cuire, et puis après qu'on le mange en contemplant cette superbe vue, il a aussi un autre goût.
Mais très amateur, Philippe, de saucisson?
Je suis très amateur de tout ce qui est nourriture. Très gourmand.
Bonjour monsieur. Vous aimez quel saucisson ?
Le saucisse de veau.
Ah ouais. Et les saucissons de porc ?
Non, je mange pas.
Non, pourquoi monsieur ?
Parce que pour mon organisme, je mange beaucoup de viande blanche, je ne fais pas beaucoup de viande de porc.
Vous savez que dans les saucisses de veau, il y a beaucoup de porc, hein ?
Si, mais j'en mange vraiment très peu. Tout ce qui est cochonnaille ou autre, je mange très peu. D'accord. Charcuterie, cochonnaille, je mange très peu.
C'est pour ça que vous avez un corps d'athlète.
Presque.
C'est une chance, quand on est comme ça, gestionnaire, proprio, d'un endroit comme le Louvrain, d'avoir un cuisinier un peu alchimiste qui va chercher des choses, qui tente des expériences, ça c'est un plus.
Alors moi j'adore ça parce qu'en fait il essaye beaucoup de choses, il a carte blanche. Quand on a commencé à travailler ensemble, il était en train de faire des préparations à base de buffle du Val de Travers. Donc on a fait beaucoup d'essais avec du buffle de Val de Travers et c'était super.
Qu'est-ce qu'on peut faire avec du buffle ?
Alors je vais laisser répondre Paul. Hein. Moi,
Alors moi je fais de la terrine de buffle, j'ai fait des saucisses sèches. D'ailleurs j'en ai préparé, je vais amener à goûter avant que Philippe y ait.
Ouais, parce que Philippe a mangé tout le pain là. Je crois qu'il a attaqué son troisième ballon.
Non mais la vie.
Pour une fois que c'est du ballon de pain. Et pas des ballons de rouge.
Là j'ai un fumoir si vous voulez voir.
Waouh, un fumoir. Ah. Allez viens Philippe, mais arrête de manger.
Je mange pas, je déguste.
C'est vrai que t'as rien mangé avant de faire l'émission Philippe.
Bah à chaque fois.
Il a juste déjeuné au café Goutte comme d'hab.
Là je fais de la...
Waouh, Ferra.
Ferra du lac fumé à froid à la cuite d'absinthe en fait.
T'en bouge pas.
À l'absinthe.
À la cuite d'absinthe.
Ça veut dire à la cuite d'absinthe.
La cuite d'absinthe c'est le reste qui reste après la distillation. Okay. Toutes les graines, etc., toutes les épices. Ouais.
Philippe, moi, j'ai fait des photos, mais c'est possible de commenter parce que tu es censé être un commentateur dans cette émission.
Alors là, on est dans le fumoir. Non, on va sentir bon. Hein.
Si tu touches, ça va sentir. Hein.
Mais j'ai pris les photos de manière, vous verrez, il y a des grilles, il y a la fumée qui monte, les poissons sont placés côté peau, en bas, tiens, c'est spécifique ça.
C'est-à-dire qu'après, ça fait des marques sur la chair parce que les grilles, on ne les nettoie pas très souvent. Parce que c'est un fumoir, en fait.
Ah ouais, ça ne se nettoie pas alors.
C'est pas que
ça soit imprégné quand même de la fumée aussi.
C'est ça, ouais. Puis c'est stérile la fumée, hein, donc c'est.
D'accord,
c'est
et ça méthode... change quand même au niveau du fumage si on met là.
J'ai les yeux qui piquent.
Je sais pas.
Non, bah ouais. T'as jamais essayé avec la peau en l'air ?
Non.
Pour tu avoir un principe de fumage. Parce que là, le principe du fumage, c'est la fumée qui monte. Hein.
C'est fumée à froid. Là, il y a la chambre de combustion. C'est un ancien frigo, je l'ai fait fabriquer avec un copain. Mm-hmm. Et puis on met la sciure là, du foyard. Avec du genièvre dedans, on allume le gaz dessous, on attend une dizaine de minutes, la sciure elle devient incandescente, ça charbonne, puis après ça fume à froid pendant 3-4 heures dedans.
Mais Paul, c'est un vrai géotrouve-tout.
Et là, tu sais, moi j'ai fait la même chose au Cambodge à Phnom Penh, hein, parce qu'il me fallait un fumoir pour fumer les fumées de poisson, et puis j'ai fait ça avec un vieux frigo aussi. Quoi. C'est un principe qui est universel, c'est très simple, le principe d'un fumoir c'est quoi ? C'est d'avoir une chambre, une sorte de...
Moi je connais, viens chez moi, hein, une chambre où on fume. Quoi,
non, un volume fermé, hermétiquement, c'est pour ça qu'un frigo c'est bien, parce que c'est isotherme en plus, et puis c'est quand même relativement bien fermé, et il suffit simplement de faire une arrivée de fumée à l'intérieur, et parfois une sortie. Par contre, la sortie, tu l'as là ?
La sortie, c'est pas hermétique en fait.
Ah,
alors, ça sort là, ça sort un petit peu ici.
Okay. Ouais, d'accord.
Là, c'est à la fin, j'ai allumé à 3 heures là. Tu vois, t'as vu encore un tout petit peu la fumée là.
Mais on peut fumer n'importe quoi.
Pour les végétariens, je mets des fois des tomes, bien du tofu, les saucisses, j'ai fumé les saucisses, je fais beaucoup de saumon fumé aussi. Énormément de saumon fumé, je vais vous faire goûter de la truite, j'ai fait de la truite du lac aussi.
Il faut quand même des poissons gras hein, pour fumer. Hein. Parce que si t'as un poisson qui est trop sèche, ça va pas, ça... ça.
Ouais, moi, j'ai mis des sticks de poisson une fois dans un fumoir, ça n'a pas marché.
Non, mais ça m'étonne pas, ça. T'inquiète pas, c'est normal. Mais voilà, on peut faire après de la charcuterie. Mais la charcuterie, c'est beaucoup plus long. En général, on fait ça à la borne. C'est-à-dire qu'on va laisser vraiment dans une grande pièce et puis on va laisser beaucoup plus longtemps et puis on va alimenter son feu. Alors que là, quand on fait des filets de poisson comme ça, il s'agit de quelques heures.
Alors, ce poisson, Philippe, tu vas nous le déguster.
Ah ben, c'est clair. Donc là, il a fumé combien de temps ?
3 heures.
Paul est en train de lever la peau et puis couper des petites goujonnettes comme ça juste pour goûter. Alors ce poisson, tu l'as quand même mariné avant, t'as mis du sel et du sucre dessus.
Oui, ouais, exact.
Sel, sucre ou sel, miel ?
Sucre.
Sucre. D'accord, moi je fais avec du miel. Et est-ce que t'as mis des herbes aussi avec ? Je vois qu'il y a des trucs.
La cuite d'absinthe, ça. C'est du reste de... le résidu quand on fait une absinthe, en fait, là. Comment on appelle là avec la lambic, là, une cuite.
Et puis alors, on va pas débrouiller.
Connais ça, Philippe ?
De quoi, se prendre une cuite ? Non, pas du tout. Pour juste expliquer quand même, donc tu prends un filet de poisson cru. Ce filet de poisson cru, tu vas mettre dessus un mélange sel-sucre. Alors après, tu peux faire 50-50. Tu peux mettre 40 de sel, 30 de sucre. Hein, ou tu peux même, comme je le fais moi, remplacer le sucre par du miel. Alors il faut bien sécher ton poisson. C'est une autre manière de faire. Hein, bien sécher ton poisson.
Mais pourquoi remplacer le sucre par du miel ?
Parce que moi, je trouve que c'est un meilleur goût. Je trouve que c'est un goût plus doux et puis on est dans une démarche qui est beaucoup plus médiévale à mon avis. Alors c'est comme ça que je le fais parce que j'ai retrouvé cette indication dans des vieux grimoires.
Est-ce que c'est pas illogique d'avoir du poisson et des graines qui proviennent des champs ? Tu vois, c'est la rencontre du lac et des pâturages. Est-ce que parfois il n'y a pas une forme d'illogisme ?
Ça peut, mais en même temps, c'est aussi une rencontre entre un animal et un végétal, ce qui est complètement complémentaire.
Mais qui ne se rencontrerait jamais à les hauteurs de l'absinthe.
Ça mange des herbes. Hein.
Oui, mais pas forcément de l'absinthe.
Ah bah oui, ça c'est clair. Mais à ce moment-là, tu bois plus de vin avec le poisson.
Non, parce qu'on savait, quand on est allé dans le Val de Travers, que ce n'était pas évident d'accompagner l'absinthe. On essayait de trouver des possibilités pour accompagner l'absinthe dans des menus gastronomiques, par exemple. Et ce n'était pas toujours évident de trouver ce qui pourrait correspondre, parce que c'est un goût très particulier.
Un goût très fort, effectivement. Donc, il faut après l'utiliser avec parcimonie, hein, utiliser très peu. Mais souvent, c'est en dose homéopathique, c'est le meilleur. Hein. Ce n'est pas quand tu charges la mule que c'est bon. Hein.
Et l'absinthe, on rajoute de l'eau, donc le poisson dans l'eau, tout va bien.
Ah oui, c'est ça, oui.
Et en fait, ici, ça s'appelait le poisson, puisqu'en fait, c'était l'église réformée neuchâteloise qui l'avait créée. Et donc, vous avez le symbole aussi du poisson qui est à l'entrée du bâtiment. Donc voilà, on a fermé la boucle.
Voilà, bah le poisson qui était le signe de ralliement des premiers chrétiens.
Tout à fait, à Rome, dans la Rome antique. Who can I run to? Who can I cry to? Who can I trust with my life if I have to? Who can I give love to if I need to? Who? Who? Who can I run to? Who can I cry to? Who can I trust with my life if I have to? Who can I give love to if I need to? Who? Who? Colors are fading, all the lights gone dark, and it won't stop raining. Everybody's gone, and my joy is sad, craving for love. Trust with my life if I have to. Who can I give love to if I need to? Who? Who? Tell me who can I run to? Who can I cry to? Who can I trust with my life if I have to? Who can I give love to if I need to? Who? Who? Though it feels like my life is on hold, my love for you won't change. I've pushed you away, though I still need you close. And my joy is sad, craving for love.
Mais qui c'est qui nous fait déguster son saumon fumé maison ? C'est Paul Steiner et où ça ? Au Louvrain.
Alors ce saumon fumé, il a été congelé, non ?
Ah ouais.
Ça sent.
Ça qu'il est...
Comment on sent ça ?
Mais c'est au niveau de la structure. Tu sens le...
Ouais. Il est bon, hein ?
Ouais, non, je pensais qu'il saurait. Je voulais pas le
cacher. Tu aurais dû être policier, un expert, Philippe.
Ça, non, hein. Pas la panique.
Non, mais non. Mais il est très sympa aussi, j'aime bien. Mais alors, moi, j'ai quand même un coup de cœur pour le.
La panique ?
Ah, ben ouais, parce que là, ça sort du fumoir, c'est quand même. Et puis, j'aime bien cette idée de mettre la cuite de.
Ben, j'ai vraiment été dans une recherche de ce que je pouvais faire le plus local possible. Mm-hmm. Le saumon fumé, ben, ça reste du saumon fumé. On a dit grand majeur saumon fumé en Suisse. Et puis la palée, je me suis dit, c'est clair que comme tu as dit avant, c'est les poissons gras qui vont le mieux. l'anguille, saumon, etc. Et puis, c'est pas un poisson gras, la palée. Mais je pense que si on a juste, comme tu disais avant, juste le... C'est assez spécial, en fait. Ça se mange pas en grande quantité. Et puis, dans des buffets du terroir, on met ça volontiers. On fait des tartares aussi avec ça.
Je vous invite à essayer ça aussi. Vous faites un tartare de saumon ou un tartare d'un autre poisson à la maison. Mettez un peu de poisson fumé dedans aussi haché. Et vous verrez que c'est un goût absolument extraordinaire.
C'est quoi ça, Paul ?
On arrive dans ton monde.
Ça, c'est la terrine de buffle au pruneau.
Ah. Alors, et je crois, parce que tu en as parlé avant, je crois même que ces buffles-là, nous avons été les rencontrer.
C'est possible.
À travers ?
Tu fais la mozzarella ?
Ouais, la mozzarella.
Les bouffes, là.
On a été le rencontrer. Ouais. Ah ouais, on a fait des très très belles.
Alors, Philippe, après la ferra, après le saumon, tu vas bien te taper un peu de terrine de buffle au pruneau.
Bah écoute, pourquoi pas ?
Un volontaire. Y a-t-il un volontaire ?
Moi !
Lâche-toi, Philippe. Tes instincts les plus bas seront récompensés.
Ouais, très bien, ta salade à combien ?
Normalement, c'est 12, hein ?
13, ouais.
13. T'as dit que c'était mieux 12 l'autre jour.
J'ai écrit, je sais plus. Je suis pas dans la tête.
Comment on fait de la terrine de buffle ? Parce que pour Philippe, c'est évident, il goûte. Mais pour plein de gens, les gens n'ont pas forcément du buffle.
Il y a des proportions avec minimum 30% de gras, de la bajou de porc. Et puis après, tu mets du buffle dedans, 30%. Puis moi, je rajoute un petit peu de panade. C'est du pain trempé dans du lait. Puis après, je rajoute un tout petit peu un foie de porc pour que ça donne un goût un peu à l'ancienne. Un peu. Ça ne doit pas trop dominer. Après, ben, toujours du sel avec du nitrate, la nitrité pour la couleur, hein, on appelle le sel rouge, ça.
Ça faudrait l'éviter ?
Moi, j'en mets pas.
Moi, j'en vends beaucoup, puis je suis obligé pour la conservation, parce que je vends pour des hôtels, etc. Mais elle vient grise si tu mets pas.
Ouais.
Ah non, mais c'est intéressant pour terminer la semaine, là, petit débat. Ouais, il faudrait pas en mettre. Non, mais Philippe,
on fait. Tu la manges quand ? Tu la manges tout de suite ? Ou bien si c'est dans un hôtel, tu la mets sous vide ? Tu la ressors ?
Le principe, moi, je cuis sans sel nitrité. T'as pas besoin de sel nitrité si tu fais attention avec tes méthodes de cuisson. Effectivement, t'as raison, ça va noircir. Ça va noircir un peu autour.
Mais à basse température, je suis à 80, moi, en bio. Avec l'eau dans le four, combustible.
Ouais, c'est bien. 80, ouais, c'est bien.
On parle de température, donc peut-être encore plus.
Tu peux faire encore plus bas. Tu peux faire encore un peu plus bas. Mais c'est égal, on ne va pas jouer sur les températures. Ce qu'il faut faire attention, c'est... Alors effectivement, toi, tu les vends. Alors peut-être que tu ne peux pas te permettre d'avoir un petit côté brun autour. Ouais. Mais moi, le sel nitrité, j'ai banni ça de ma cuisine.
Pourquoi ?
Mais parce que c'est quelque chose qui est un soutien pour le cuisinier, qui a peur d'avoir un résultat qui est gris. Parce qu'effectivement, si tu n'as pas une masse bien compacte, là où tu as le trou, là... Moi, je vais avoir plus facilement un petit rond brun. Alors, c'est vrai que c'est pas très appétissant. En plus, ça donne un petit côté légèrement oxydé. Mais après, je préfère travailler avec des produits qui sont vraiment originaux. Enfin, j'entends. Je sais pas comment dire ça, parce qu'après, je veux pas choquer les gens, mais j'entends. Moi, je n'utilise pas ça. Voilà. C'est pas mon truc.
Bon, on t'expliquera ça. Pourquoi à Paul plus tard, peut-être hors antenne. On va terminer cette semaine, messieurs, sur une note toujours gastronomique. J'aimerais que les deux associés, Philippe et Paul, vous nous disiez pourquoi est-ce qu'il faudrait venir ici du côté du Louvrain dans cette saison et puis quel genre de plat on peut y déguster et quelles activités peut-on y faire.
Alors au niveau des activités, on a la chance d'être dans la nature, donc on peut faire d'énormes promenades, des balades dans la région. On a des activités donc sportives, on a une piscine couverte au Genevay-sur-Cofrane, on a un stade d'athlétisme, donc beaucoup de choses aussi à visiter dans la région. Donc beaucoup de choses pour satisfaire la clientèle.
Au niveau gastronomique, c'est pas encore la fin de l'émission, Paul, un peu de discipline quand même. Hein. Je sais que le coup du sel nitrité, là, ça t'a complètement scié les genoux. Enfin bon, qu'est-ce qu'on pourra manger maintenant ?
Je ne peux pas tellement répondre comme ça, qu'est-ce qu'on pourra manger, parce qu'ici, il n'y a pas vraiment deux spécialités. J'ai parlé de la torée avant.
Mais tes envies, alors, les envies printanières de Paul Steiner.
C'est une longe de veau en basse température, maintenant, parce qu'on a la saison des morilles. Bon, maintenant, on est dans les asperges, on va faire des variations autour de l'asperge, pas seulement qu'une hollandaise, qu'une mousseline, puis gratiner ça, mélanger à la hollandaise sous une salamandre.
Le mot de la fin, rapidement.
Ouais.
Pourquoi venir ici au Louvrain ?
Pour manger mes glaces au yogourt. Puis pour la bonne humeur. Et puis, avant, on parlait, c'est clair qu'on ne s'asseye pas à table avec les gens. Mais les gens, ils viennent vers nous, on discute. Et puis, on a du respect parce qu'on est professionnel avec la clientèle. Mais les gens, ici, se sentent bien.
Ben voilà, ben venez vous ressourcer au Louvrain. Philippe, il continue de manger. Merci beaucoup, Philippe.
Ben on se sent bien.
Merci. Philippe Saltarski.
Parfait.
Génial. Merci, Philippe. Les grenons.
Merci Duja, merci Paul, merci Philippe pour votre accueil. Et puis, on vous souhaite un bon week-end parce que malheureusement, c'est déjà vendredi. On vous retrouve lundi matin, 9h30 sur la première. Ciao.
Bille en tête, avec votre quotidien 24h et son site internet 24h.ch.
La première, il est 10h.